Tout d'abord, je vous présente nos deux invités. Donc Paul Ariès, à ma gauche, qui est rédacteur en chef du Sarcophage et des Indignés, deux publications qui fusionnent pour devenir Les Indignés. Hein, voilà, donc, vous pouvez vous procurer pour lire les différentes analyses qui se trouvent. Donc Paul Ariès, qui est politologue. Et puis, à ma droite, Bernard Friot, qui est professeur émérite à l'université Paris-Westmanter et qui est membre du réseau Salaria, donc une association d'éducation populaire qui fait notamment un certain nombre de formations sur les questions de salaire et de retraite, qui a notamment publié l'enjeu du salaire, l'enjeu des retraites, voilà, différentes publications dont on a pas mal débattu au sein du parti. Et l'idée de cet atelier aujourd'hui, et les raisons qui nous ont poussé à l'organiser, c'est que, bon, comme vous pouvez le constater, au sein de notre parti qui est assez jeune, eh ben, il y a un certain nombre de débats que nous n'avons pas tranchés. Il y a un certain nombre de sujets que nous n'avons jusqu'à présent pas vraiment évoqués, comme ça, dans des débats publics ou dans des réunions officielles, qui sont du coup absents de nos textes, de nos propositions programmatiques. Et on a considéré que, voilà, cette année, il fallait aller sur ce sujet assez fondamental, qui regroupe en fait un certain nombre de questions. En gros, je dirais la continuité des droits pendant les périodes de non-emploi, la continuité d'un versement d'une rémunération, notamment pendant les périodes de non-emploi, comment faire en sorte de sortir de ce qu'on appelle le marché du travail, comment essayer de faire en sorte de remettre au centre le travail et non plus l'emploi, essayer de briser la définition capitaliste de la valeur pour essayer d'organiser complètement différemment l'économie. Et pour tout cela, il y a notamment ce qui est mis au débat, c'est au sujet d'un revenu universel, d'un salaire universel, donc un revenu universel qui serait versé à tout le monde et qui serait versé également pendant que les personnes travailleraient, qui deviendraient un surplus au salaire versé, ou alors un salaire universel, comme pourra l'évoquer Bernard Friot, qui est, pour résumer, mais j'en dis pas grand-chose, parce qu'évidemment il va le développer, finalement une socialisation à 100% du salaire, étendre au maximum le principe révolutionnaire de la cotisation sociale, pour avoir, d'une certaine manière, une extension du modèle de la fonction publique aux salariés du privé, dont la rémunération serait du coup liée à la qualification et non pas au fait d'avoir un emploi ou de ne pas en avoir. Donc, je dis ça brièvement pour laisser place au débat. Donc, je vais d'abord donner la parole à Paul Ariès pendant une vingtaine de minutes, ensuite à Bernard Friot pendant le même temps, et puis ensuite, l'idée, évidemment, c'est de débattre avec vous tous pour qu'on puisse commencer à initier cette discussion sur ce sujet fondamental et pourquoi pas à l'avenir aboutir à une position du parti de gauche sur cette question. Voilà, je te laisse la parole.
Bonjour et merci de votre invitation. Nous pourrions avec Bernard creuser nos différences, nos désaccords. Je veux dire, c'est une sorte de maladie infantile des gauches qui s'explique souvent par le refus des expérimentations. Donc, montrer les différences entre les adeptes du salaire à vie, du revenu social garanti, et même dans une moindre mesure de la sécurité sociale professionnelle. Mais nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut assurer à chacun, de façon inconditionnelle, les moyens d'existence, et ceci même sans emploi. C'est déjà tout de même une bonne base d'accord et une sacrée rupture par rapport au fonctionnement, mais également par rapport à l'idéologie du système capitaliste. Le problème, c'est que ce débat avance très peu depuis 30 ou 40 ans. Je parle du débat à l'intérieur de la gauche. Souvent, c'est un dialogue de sourds où on ne s'échange pas des arguments, mais davantage des suspicions. Il faut comprendre que ce débat, qui n'est pas d'ailleurs un débat franco-français, ni même un débat spécifique aux pays riches, remet en cause beaucoup de nos préjugés. et qu'il croise ces mots poisons que le système nous a imposés, comme la croissance, la consommation, le revenu, l'épargne. Il renvoie aussi à cette rupture vers 1923 en Union soviétique, au moment du passage du fameux « de chacun selon ses besoins » au non moins fameux « de chacun selon son travail ». Parler de salaire à vie, comme Bernard Friot, de revenus social garantis ou de dotation individuelle d'autonomie, comme moi, c'est donc une sacrée cure de désintoxication vis-à-vis de l'idéologie capitaliste. Vis-à-vis aussi, me semble-t-il, de l'idéologie travailliste productiviste. Je crois franchement que nous allons dans le même sens, mais avec des modalités différentes, avec un registre de vocabulaire différent. Cela en raison de nos trajectoires politiques, en raison de notre mémoire militante. Essayons de faire de cette diversité une richesse et pas une source de division. Je parlais de différence en matière de vocabulaire. Il faut reconnaître que du côté du revenu garanti, c'est un peu l'auberge espagnole. Certains parlent de revenu universel, de revenu de citoyenneté, de revenu social garanti, de dotation individuelle d'autonomie. Je comprends donc les réserves de Bernard sur le terme même de revenu, puisque je préfère personnellement parler de dotation individuelle d'autonomie. Mais je n'ai pas le fétichisme du vocabulaire, j'allais dire allons-y pour le revenu social garanti, puisque c'est un terme qui semble s'imposer au sein des réseaux militants. Les difficultés de vocabulaire ne sont pas seulement du côté des partisans du revenu garanti. J'aurais tendance à dire que les mots sont rares, donc précieux. Et, par exemple, parler de travail indépendamment de l'emploi, c'est juste sur le plan théorique, mais c'est souvent difficilement compréhensible, tellement l'idéologie capitaliste a fait des dégâts. Pourquoi ne pas parler simplement d'activité, voire d'activité socialement utile. Parler de salaire ou de cotisation sociale, indépendamment du marché de l'emploi, c'est juste sur le plan théorique, mais ce n'est pas forcément immédiatement plus clair pour une société de paix à l'économisme. Le sarcophage avait engagé ce débat il y a 6 ans avec Bernard Friot, avec Christine Jasque, avec beaucoup d'autres. Je suis convaincu que ces différences, aujourd'hui, ne sont pas insurmontables. Et je suis même convaincu que ce n'est pas un problème. Il faut expérimenter. Et cela se fera nécessairement dans le désordre. Le pire, c'est lorsque la recherche de la pureté nous paralyse. Tous ceux qui aujourd'hui avancent en faveur d'un revenu garanti le font de façon brouillonne, contradictoire. Eh bien, faisons avec. Faisons avec notre passé, faisons avec les forces sociales, faisons également avec l'utopie. Le grand mérite de ce débat, c'est de réhabiliter l'utopie. C'est-à-dire un grand projet, un phare qui montre une direction. Et je voudrais, pour aller vite, présenter aujourd'hui 10 thèses qui semblent pouvoir nous réunir tous les deux et sans doute beaucoup plus. Première thèse, ce ne sont pas les entreprises qui font vivre les salariés, mais les salariés qui font vivre les entreprises. Autrement dit, on ne parle plus assez de valeur ajoutée, d'exploitation économique. Cette richesse économique ne doit rien au cerveau génial de quelques grands patrons, mais presque tout au travail. Je dis presque tout au travail parce qu'il me semble essentiel de se souvenir que notre richesse est tributaire de plusieurs siècles d'esclavage, de colonialisme, de néocolonialisme. Et je dis presque tout également parce que notre richesse est tributaire du pillage des ressources naturelles, de la destruction des écosystèmes. J'en tire 2 conséquences de cette première thèse. ne déifions pas les 30 glorieuses. Deuxième conséquence, cette richesse est la nôtre. Je dirais pas toute, hein, pas toute, puisqu'effectivement elle repose sur la spoliation des richesses. Et on voit comment d'ailleurs l'abandon la semaine dernière du projet Yasuni Tété en Équateur montre que nous ne sommes pas si prêts à partager la richesse. Mais cette richesse est la nôtre et cela fait que cette richesse est un bien collectif. C'est une production sociale. Deuxième thèse, cette richesse est la nôtre, mais nous le savons moins qu'auparavant, car nous avons perdu depuis quelques années la lutte des classes. La lutte des classes n'est pas une lubie du Front de Gauche et de quelques autres. Même si la conscience de classe est plus développée aujourd'hui dans la haute société que chez les prolos, conséquence, nous luttons davantage aujourd'hui dans les conditions imposées par le système. Nous peinons à ouvrir des fronts de rupture avec le capitalisme et le productivisme. D'où les échecs répétés du syndicalisme et de la gauche en matière, par exemple, de défense des retraites. D'où la régression sociale. D'où le fait que nos idées apparaissent inadéquates, irréalistes. Nous sommes donc orphelins d'un nouveau grand projet émancipateur. C'est ce que j'appelle avec d'autres le pas de côté, qui n'est pas, et je le dis à Bernard, qui n'est pas nécessairement un petit pas, mais la nécessité de penser à côté du système, de construire à côté du capitalisme et du productivisme dans le cadre du conflit entre le travail et le capital. Troisième thèse, on ne part jamais de rien, comme le disait notamment Ben Saïd. Il y a, je crois que c'est une formule qu'utilise Bernard Friot, il y a toujours un déjà-là, émancipateur. Et Bernard nous invite à prendre conscience de ce que représente la cotisation sociale comme principe de valeur ajoutée non capitaliste. Et il a raison. J'insiste avec d'autres, pour ma part, sur ce qui reste de gratuité au sein de cette société et sur la nécessité de défendre et d'étendre cette sphère de la gratuité. Ce déjà-là n'est jamais définitivement acquis. On le voit, par exemple, avec le programme du Conseil national de la résistance, bien nommé les jours heureux. Le grand tort que nous avons eu, et une des causes de notre défaite, c'est de ne pas avoir tiré le maximum du principe de sécurité sociale. D'avoir accepté d'en faire un instrument d'accompagnement du système et non pas un instrument de transformation du système. On pourrait montrer chronologiquement, techniquement, comment ce principe de sécurité sociale a été déconstruit, avec notamment les ordonnances de 67, avec la séparation des régimes, avec le principe du paritarisme. La sécurité sociale, comme le service public, c'est un principe d'organisation de la société. C'est cela qu'il faut repenser si nous voulons construire une autre société. Quatrième thèse, ce nouveau pacte social, ce nouveau projet dont nous avons besoin doit être encore plus émancipateur que celui que nos anciens avaient conquis. Et je dirais que c'est possible. Et c'est possible pour deux raisons. C'est que cette idée de salaire à vie ou de revenu social garanti est fondée sur une bonne nouvelle. Et je dirais même sur deux bonnes nouvelles. La première bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle économique. C'est-à-dire que la France et la planète sont bien assez riches pour permettre à 7 milliards, voire 60 millions d'habitants, de vivre de façon sécurisée. Je vous rappellerai deux chiffres. L'ONU nous rappelle qu'il suffirait de mobiliser pendant 25 ans 40 milliards de dollars par an pour régler le problème de la faim dans le monde. Et l'ONU ajoute qu'il suffirait de mobiliser 80 milliards de dollars pendant 25 ans pour régler le problème de la grande pauvreté dans le monde. Ces 40 ou ces 80 milliards, on ne les trouve pas. Mais le budget officiel de l'armement est de 1200 milliards de dollars. Le marché publicitaire mondial est de 800 milliards de dollars. Et ce que les spécialistes appellent le PIC, le produit international criminel, l'argent sale, est de 1000 milliards de dollars, 10 à 15% du PIB mondial. Avec 0,2% du PIB mondial, on règle le problème de la faim dans le monde. On le voit, ce n'est pas un problème de moyens, c'est un problème de choix politique. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. La planète est assez riche. Et la deuxième bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui, je vous invite à vous mettre à l'écoute de tous ces nouveaux gros mots qui se cherchent à l'échelle mondiale pour dire les nouveaux chemins de l'émancipation. En Amérique latine, on parle du buen vivir, du bien vivre. Alberto Acosta, le des pères du mouvement du buen vivir, le précise, le bien vivre, ce n'est pas le bien-être au sens de la société d'hyperconsommation. Dans le cadre de la philosophie négro-africaine de l'existence, on parle du plus vivre. Ce plus vivre négro-africain, c'est la sœur jumelle du buen vivir sud-américain. Et en Inde, on parle d'écologie des pauvres, que l'on oppose à une écologie des riches. Je dirais le salaire à vie, le revenu social garanti, ne sont possibles que parce que nous avons, pour moi, la possibilité d'inventer ce qu'on pourrait appeler un socialisme du bien-vivre. Que parce que nous avons la possibilité d'inventer un nouveau mode de production, un nouveau mode de consommation, un nouveau mode d'existence. Et le grand enjeu du moment, c'est d'inventer ce que pourrait être un buen vivir, un bien vivre à la française. C'est-à-dire de réécrire des nouveaux jours heureux. Et ça sera notamment l'objet du troisième forum national de la désobéissance, le 26 octobre, à côté de Lyon, avec la participation des collectifs citoyens d'Aiglière, mais également d'Attaque, de la Fédération nationale des centres sociaux, d'Emmaüs, des villes désobéissantes. Il n'y a pas, pour moi, de salaire à vie, de revenu social garanti possible dans une société capitaliste. Ou mieux, le salaire à vie, le revenu social garanti, c'est un instrument pour permettre de sortir de la société capitaliste. C'est une sorte d'accoucheur d'un autre monde, mais d'un monde qui est déjà au moins potentiellement là. Cette société du buen vivir, cette civilisation du bien vivre, c'est la condition du salaire à vie, d'un revenu d'existence. Et ça suppose une série de ruptures économiques, sociales, culturelles, politiques, écologiques. C'est un chemin broussailleux, mais nous avons déjà quelques repères. Premier repère et cinquième thèse, il faut dissocier l'activité, Bernard Friot dirait le travail, de l'emploi. Il y a beaucoup d'emplois nuisibles et d'activités non reconnues, mais socialement utiles. Conséquence, il faut dissocier l'allocation, Bernard dirait le salaire, de l'emploi. Bref, aller vers un salaire à vie, aller vers un revenu garanti. Cette société du salaire à vie, cette société du revenu garanti, c'est une société, la formule est malheureuse, mais elle permet de comprendre, c'est une société du plein emploi. C'est une société du plein emploi de l'intelligence, de la productivité humaine. Mais je dirais à condition de repenser notre conception de la richesse, notre conception du travail. Ce revenu social garanti, ce salaire à vie, peuvent être financés de différentes manières. Il y a le débat entre la création monétaire, l'impôt et la cotisation sociale. Le salaire des fonctionnaires est bien payé par l'impôt. On peut imaginer cependant avec Bernard ce que serait une série de cotisations sociales. Une cotisation sociale pour le salaire à vie et ce que j'appelle la dotation individuelle, une cotisation sociale pour l'investissement et une cotisation sociale pour la gratuité. Ce revenu social garanti, c'est tout sauf du misérabilisme. C'est tout sauf une logique assistentielle. Ce revenu social garanti, il ne doit pas pour cela se définir par rapport au seuil de pauvreté. Lorsque nous avons réuni, en juillet dernier, le premier forum mondial de la pauvreté avec Emmaüs, je dirais que ça a été un des fils rouges des trois journées. De dire ce que nous demandons, ce n'est pas effectivement par rapport au seuil de pauvreté. Ce que nous demandons, c'est par rapport aux moyens d'une existence pleine. C'est-à-dire par rapport aux conditions d'une vie sécurisée. Donc ce revenu social, ce salaire à vie, doit permettre de vivre bien, au sens du buen vivir. J'ai ici, sans doute en désaccord avec Bernard, sur son désir de fonder le salaire sur la compétence. Je préfère bien sûr le salaire fondé sur la compétence au salaire fondé par le marché du travail. Mais je me méfie d'un retour au salaire au mérite. Je me méfie de qui définit la compétence et comment. Pour moi, le vrai salaire à vie, le vrai salaire pour tous, c'est le salaire égal. Mais sans doute faut-il ce moyen terme pour inventer demain une société du don et du contre-don. Mais attention, attention, je dirais, à la fois à la bureaucratisation, attention au retour de l'idéologie travailliste. Nous sommes d'accord en revanche pour dire que le salaire à vie, le revenu social garanti, c'est pas une logique redistributive. C'est un revenu primaire lié directement à la production. C'est la contrepartie de la création d'une richesse qui n'est pas nécessairement économique et qui n'a donc pas besoin d'être comptabilisée individu par individu. Ce revenu social garanti, ce salaire à vie, c'est le renforcement de la socialisation. Mais une socialisation sans étatisation. C'est pourquoi j'aime bien parler de dotation individuelle d'autonomie. Parce que cette question d'autonomie m'apparaît essentielle. Deuxième repère et sixième thèse, cette dotation d'existence doit être une façon de se réapproprier la richesse, mais aussi le pouvoir. Et Bernard parle souvent de la nécessité d'une copropriété d'usage. Et ça m'apparaît effectivement tout à fait indispensable. Je crois que ce que cette dotation individuelle d'autonomie, ce salaire à vie, doit permettre aussi, c'est de faire primer les valeurs d'usage non capitaliste sur la valeur d'échange. Ce doit donc être une rupture décisive avec le mode de production, avec le mode de consommation, avec le mode d'existence capitaliste. Troisième repère et septième thèse, cette allocation, pour moi, n'est pas un pouvoir d'achat. C'est un pouvoir de vivre, garanti. Quand je dis que ce n'est pas un pouvoir d'achat, ça veut dire que non seulement elle n'est pas nécessairement individualisée, mais qu'elle n'est pas nécessairement monétaire. Moi, je suis pour que cette dotation individuelle d'autonomie soit versée de trois façons. Une partie, sans aucun doute, sous forme d'un salaire à vie. Une partie sous forme d'un salaire à vie, mais financé par des monnaies locales, pour faciliter la relocalisation de l'activité économique. Et moi, j'aime bien l'idée que ce salaire à vie, que ce revenu social garanti, soit donné au maximum de façon démonétarisée. Pour commencer à déséconomiser notre société. Tant de mètres cubes d'eau, gratuité de l'hôpital, gratuité des transports en commun, gratuité de la santé, de l'éducation, des services funéraires. La liste n'est pas limitative. L'adoption d'un revenu garanti permettrait de façon certaine une redistribution des revenus des hommes vers les femmes et des riches vers les pauvres. Cinquième repère et avant dernière thèse, cette dotation individuelle d'autonomie, ce salaire à vie, me semble indissociable, premièrement, de la réduction du temps de travail. Je crois qu'il faut reprendre le grand mouvement historique de réduction du temps de travail. Souvenons-nous du vieux slogan « travailler 2 heures par jour » pour des raisons écolo, disons aujourd'hui « travailler 1 jour par semaine ». Et je crois que nous n'avons pas de raison d'être frileux dans ce domaine-là. Deuxième élément indissociable, c'est le retour de la retraite non seulement à 60 ans, mais à 55 ans. Et je dirais qu'il est intéressant de voir comment, et je dis cela sans méchanceté vis-à-vis des organisations syndicales, mais comment la retraite, la défense de la retraite a été malmenée, puisqu'on l'a menée au nom de la solidarité intergénérationnelle, alors qu'elle aurait dû être menée au nom de l'activité des personnes âgées. C'est parce que les personnes âgées travaillent, dirait Bernard, ont une activité sociale qu'ils doivent être rémunérés. Et le sarcophage avait même avancé l'idée d'une même retraite pour tous. C'est-à-dire de remettre en cause le principe de la hiérarchisation de la retraite. J'ajouterais qu'il n'y a pas de, à mon sens, de salaire à vie, de revenu social garanti, sans un revenu maximal acceptable. Nous devons construire, on n'en est qu'au début, on bricole, la notion d'espace écologique des revenus. Nous devons apprendre à intégrer la réflexion écologique dans le social. Dixième et dernière thèse, la plus provocante. Il n'y aura pas, pour moi, de salaire à vie possible, il n'y aura pas de revenu social garanti si nous ne changeons pas de regard sur les pauvres, sur la pauvreté et les milieux populaires. Qu'on s'entende bien, lorsque je parle de pauvreté, je ne parle pas de misère. Je parle des modes de vie populaires. La pauvreté est toujours vue de façon négative. On la définit en termes de manque. Économiquement, en termes de manque de pouvoir d'achat. Politiquement, en termes de manque de participation, ne serait-ce qu'électorale. On sait que les pauvres votent moins. Culturellement, en termes de manque de scolarisation. Socialement, en termes de manque de réseau. Eh bien, je crois qu'il faut en finir avec cette définition négative des milieux populaires. Et qu'il faut penser, construire une positivité potentielle des milieux populaires, c'est-à-dire d'autres façons de vivre. Pour dire les choses rapidement, un des grands mérites écologiquement, socialement, des pauvres, c'est qu'ils voyagent moins et quand ils voyagent, ils vont moins loin. Et de façon un peu moins provocante, j'ajouterais que la première richesse des milieux populaires, c'est le service public. Ce sont les biens communs. C'est la construction des communs. C'est tout ce qui permet d'avancer vers la socialisation. Donc, pour conclure, je dirais que il est normal. Nous venons de traditions politiques, philosophiques, spirituelles, parfois différentes, que notre registre de vocabulaire ne soit pas le même. Il est normal que nous ayons des priorités différentes. Mais ce qui me semble essentiel, c'est de mettre la société en mouvement pour aller effectivement vers ce droit reconnu à chacun de pouvoir disposer de sa part sur le produit social. Voilà, je vous remercie pour votre patience.
Merci, donc je laisse maintenant la parole à Bernard.
Merci beaucoup au Parti de Gauche pour son invitation. Merci, merci beaucoup Paul pour ton intervention chaleureuse et qui vise à montrer les convergences et non pas... D'accord. Qui vise à montrer des convergences et non pas à se planter sur un quant à soi effectivement trop souvent... fréquent à la gauche de la gauche. Et donc, ce que je vais dire sera en écho à ce que tu viens de dire. Je prends les choses autrement, mais on pourra s'apercevoir des proximités décisives qu'il y a entre nous. Étant entendu que la principale divergence, je pense, repose sur la ce qu'en termes, disons, savants, on désigne comme différence entre valeur d'échange et valeur d'usage. Et peut-être que entre valeur économique et valeur d'usage, dans le vocabulaire que j'utilise moi plutôt, et comment à négliger la question de la valeur économique pour ne réfléchir qu'en termes de valeur d'usage, on risque, à mon sens, de passer à côté de choses essentielles dans la sortie du capitalisme. Je crois que ce sera un point de divergence, mais je fais mon topo tel que je l'avais prévu après cette articulation brève que je viens de faire avec ce que vient de dire Paul. Il me semble, ce sera en deux temps, quel déplacement opéré par rapport à nos habitudes revendicatives ou d'analyse, et dans un deuxième temps, quelle transition, quelle revendication immédiate. Il me semble, j'insisterai sur trois déplacements, mais le topo de Paul m'invite à en ajouter d'autres, mais je ne vais pas de toute façon redire ce qu'il a dit. Le premier déplacement, c'est de sortir de notre adhésion au plein emploi. Je pense que, quand je dis notre, je parle du front de gauche. Hein, moi, je suis communiste. Je connais la culture communiste, nous avons une adhésion, je suis à la FSU, je connais la culture de la FSU, même qui est un syndicat de fonctionnaires et qui a une adhésion au plein emploi, ce qui est un contresens, puisque les fonctionnaires, justement, n'ont pas d'emploi, c'est bien ce qui est intéressant chez eux. Mais notre adhésion au plein emploi est, je crois, un obstacle qu'il faut que nous franchissions. Il vient de l'intériorisation d'une institution qui a mis 5 siècles à se construire, je comprends, hein, et nous ne sortirons pas du capitalisme par un grand soir, hein, bien sûr. Hein, il a fallu 5 siècles pour construire le capitalisme, j'espère que ce sera un petit peu moins long pour en sortir, mais la bonne nouvelle dans ce que je dis, c'est que nous en sortons déjà depuis 1 siècle, cela dit. Hein, et donc, depuis 1 siècle, Paul rappelait le déjà-là, nous avons un déjà-là considérable, mais pour lequel nous avons un rapport nostalgique. Nous avons la nostalgie des jours heureux, nous avons la nostalgie de la classe ouvrière, et comment passer de cette nostalgie qui est très mauvaise conseillère à un rapport actif, ça suppose effectivement d'actualiser les conquêtes de la classe ouvrière. Et pour actualiser ces conquêtes, il importe de voir que nous avons déjà largement dépassé le marché du travail, cette institution que le capitaliste a construit à grands efforts pendant 5 siècles, et que, avec le statut de la fonction publique, dans lequel on est payé pour son grade, c'est-à-dire dans lequel la qualification, qui n'est pas la compétence. La compétence, c'est la capacité à produire des valeurs d'usage. La qualification, c'est tout à fait autre chose. C'est ce que j'explique longuement dans l'enjeu du salaire. Je saurais trop vous inviter à lire cet ouvrage dans lequel j'essaye de déplacer le débat sur le salaire. Le salaire, ce n'est pas une affaire de valeur d'usage, c'est une affaire de valeur économique. La qualification, c'est la reconnaissance que l'on produit de la valeur économique. À un certain niveau. Moi, je ne fais plus cours parce que je suis en retraite, mais si je faisais cours, disons, en fin de carrière, je produisais la même valeur d'usage qu'un maître de conférence débutant ou un doctorant, ou un docteur, je veux dire, qui est en contrat doctoral et qui fait les mêmes travaux dirigés que moi. Sauf que j'étais réputé produire 3 fois plus de valeur économique. Ce n'était pas ma compétence qui en décidait, c'était ma qualification. Et là, effectivement, nous sommes dans un débat autour de l'unicité ou pas du salaire. Hiérarchie des salaires ou non. Violence sociale ou non. C'est vrai que si je suis réputé, au terme d'épreuves de qualification, produire plus de valeur économique qu'un autre, il y a bien une forme de violence sociale, c'est le propre de la valeur économique, que d'exprimer cette violence sociale. Et penser que nous pourrions faire une société dans laquelle les valeurs d'usage seraient transparentes est une illusion. Les sociétés sont tragiques, les sociétés sont marquées par la violence économique. Et penser que l'on pourrait s'en sortir en éliminant par la porte, c'est s'exposer à la voir revenir de la pire façon par la fenêtre. Et tout projet de transformation sociale doit absolument prévoir les institutions de gestion de la violence économique. Et la hiérarchie des salaires en est un. On va s'empailler sur les critères de qualification, qui qualifie, combien, 1 à 4, moi je propose 1 à 4 avec des salaires qui vont de 1500 à 6000 euros, donc le revenu maximum garanti dès là, c'est 6000 euros par mois. Mais pourquoi 1 à 4, pourquoi pas 1 à 3, pourquoi pas 1 à 6, enfin, etc., d'accord, et sur quels critères, et qui définit, etc. Bien. Donc là, nous allons déplacer la lutte de classe sur ce terrain-là, mais n'espérons pas en finir avec la lutte de classe, c'est-à-dire avec la violence économique. Mais vous voyez que en attribuant la qualification à la personne, la fonction publique, c'est l'anticipation de ce que la CGT revendique avec la sécurité sociale professionnelle, c'est-à-dire le fait que l'on conserve son salaire entre deux emplois, parce que le salaire est attaché à la personne et non pas au poste de travail. La différence entre l'emploi et le grade, c'est que l'emploi attache la qualification, non pas la compétence, la qualification, c'est-à-dire la reconnaissance par une convention qui est arbitraire, qui relève de la lutte de classe précisément, la reconnaissance de la capacité à produire tel niveau de valeur économique, évalué dans du salaire. Cette qualification du poste, qui est une conquête d'ailleurs, cela dit, du syndicalisme, parce qu'il évite une forme d'arbitraire patronal dans la définition des salaires, mais n'en finit pas avec le marché du travail. Il faut être demandeur d'emploi si l'on veut être reconnu indirectement comme qualifié. Un salarié du privé n'est jamais payé, lui, c'est son poste qui est payé. Pas de poste à poil. La fonction publique est un déjà là tout à fait considérable, et c'est tout à fait normal que les réformateurs soient à la manœuvre pour en finir avec la LOLF de Jospin, la RGPP de Sarkozy et la la modernisation de l'action publique, la MAP de Hollande. La deuxième anticipation du même type, hein, c'est la retraite comme salaire continué. Nous n'avons pas du tout construit la retraite comme un revenu disféré où, à la mesure de nos cotisations, on aurait droit à des prestations. On a construit la retraite comme un taux de remplacement du meilleur salaire, c'est-à-dire un droit au salaire à vie à partir d'un âge que, jusqu'en 1995, la CGT revendique à 55 ans. Et 50 ans pour les métiers pénibles. Là encore, cette anticipation de la retraite comme salaire à vie est totalement contestée par les réformateurs qui veulent faire de la retraite le revenu différé, contrepartie de mes cotisations passées. Prenez le projet de Piketty, celui du PS, celui de la CFDT, pour ne pas parler évidemment du projet du Front National, du MEDEF et de l'UMP. Ce premier déplacement par généralisation du statut de la fonction publique, non pas tous fonctionnaires, c'est absurde, mais tous qualifiés, tous porteurs d'un salaire qui est attribué à la personne et qui ne peut que progresser, qui ne peut jamais être remis en cause, il n'y a jamais de passage par la case chômage, c'est cela. En finir avec la nostalgie, hein, qui fait que quand on voit un documentaire sur la classe ouvrière, il faut y aller avec un mouchoir. Eh bien, arrêtons de sortir nos mouchoirs et faisons pareil. La retraite comme salaire à vie qu'il s'agit de généraliser dès 18 ans. Deuxième déplacement pour être fidèle au déjà là conquis par la classe ouvrière, c'est passer de la revendication de nationalisation et de droits nouveaux pour les salariés dans l'entreprise, ce qui est notre discours le plus avancé, parce qu'il y a parfois, ça va moins loin que ça, mais enfin, prenons celui-là, passer de ce discours-là au discours de copropriété d'usage de toutes les entreprises. C'est absolument décisif. L'unification du salariat comme classe révolutionnaire suppose que l'on propose le même avenir à tous. Et que ce n'est pas parce qu'on travaille dans une entreprise nationalisée qu'on aurait droit à des pouvoirs spéciaux, à une participation au conseil d'administration, je ne sais pas quoi. D'autre part, nationaliser, ça suppose que l'on accepte qu'il y ait de la propriété lucrative, par ailleurs. Or, tant qu'on n'a pas fait un travail politique tout à fait considérable, hein, qui n'est pas mené du tout, le Front de Gauche n'a aucune réflexion sur la propriété, hein, tant que, et a fortiori, aucun matériel de propagande, aucun tract concret sur ces questions-là, tant que, donc, nous ne réfléchissons pas sur le fait que tout lieu de travail doit être la copropriété d'usage de ses salariés. Propriété, comme condition de la responsabilité. On peut passer du « il » en économie, qui est tellement dramatique. Hein. On attend que d'autres nous donnent du travail, je ne sais pas trop quoi. Au « nous », que si nous sommes responsables et donc propriétaires. La propriété est la condition de la responsabilité. Il s'agit de généraliser la propriété, pas de l'abattre, c'est imbécile. De la généraliser. C'est-à-dire que nous décidions de la hiérarchie, de ses formes, de sa domination, que nous décidions de ce qui est fait, de ce qui est produit, du travail concret, des valeurs d'usage produites, que nous décidions de l'investissement, que nous décidions des accords internationaux à passer, parce que beaucoup d'activités sont en division internationale, bref, que nous le fassions dans toutes les entreprises, la boulangerie de quartier, l'école, le service public, l'hôpital, la SNCF, L'Oréal, etc. Toutes les entreprises doivent être la copropriété d'usage des salariés. Alors, pas uniquement de leurs salariés, parce que autant on peut comprendre qu'une boulangerie de quartier soit la copropriété d'usage des seuls trois boulangers qui y sont et qui ont un salaire à vie. Hein, d'accord, hein. Nous allons voir ce que c'est en termes de caractère d'usage de la propriété. Ils ne sont pas rémunérés par le chiffre d'affaires de la boulangerie. Hein, d'accord. Cette copropriété des seuls boulangers n'a aucun sens s'agissant des professeurs d'école, de l'école du quartier. Il s'agit qu'ils soient propriétaires, c'est-à-dire qu'ils décident. Ils sont copropriétaires avec d'autres, parce qu'il y a un programme national, parce qu'il y a des enjeux territoriaux, parce qu'il faut qu'il y ait des élus dans les copropriétaires, des représentants des usagers, en fait, etc. Idem pour la SNCF, on n'imagine pas que les seuls cheminots, bien sûr qu'il faut que les cheminots soient propriétaires et décident, mais ce n'est pas les seuls 150 000 cheminots qui doivent décider de l'infrastructure de transport, de type d'énergie qui est consommée par les instruments de transport, etc., etc. Il faut que les copropriétaires, selon l'enjeu social que représente l'entreprise, soit au-delà des seuls salariés, mais que les salariés, bien sûr, le soient. Copropriétaires d'usage, c'est-à-dire ne tirant aucun revenu de leur propriété. N'espérons pas abattre le capitalisme tant que nous légitimerons la propriété lucrative. Dès lors que c'est dans des entreprises petites ou non décisives, dès lors que c'est des propriétaires immobiliers ou que sais-je encore. La propriété lucrative est au cœur du capitalisme, c'est-à-dire le droit de tirer un revenu d'un patrimoine. donc d'exploiter le travail d'autrui par définition. Si je tire revenu de patrimoine, j'exploite nécessairement le travail d'autrui. Y compris si je loue une chambre à des étudiants pour améliorer mes fins. La propriété lucrative doit être contestée, combattue, sous toutes ses formes, et la copropriété d'usage bien définie. Et là, il y a un énorme travail à faire. Je ne suis pas d'ailleurs moi-même au bout de la réflexion, loin de là. Je fais appel aussi bien à l'Institut européen du salariat, qui est un réseau de chercheurs, qu'un réseau salariat, qui est un réseau militant de enfin, l'éducation populaire. On essaie des intellectuels collectifs, enfin, bon, bien sûr. Ne tirer aucun revenu de l'entreprise dans laquelle on est, ça veut dire, un, qu'elle ne nous paye pas, et là, vous voyez bien que c'est aller au bout du déjà-là de 45. 45% du salaire n'est déjà pas le fait de l'employeur. 45% du salaire vient de caisse. L'entreprise ne paye pas les dépenses de santé de ses salariés, ni les pensions de ses anciens salariés, ni les allocations familiales, ni les indemnités de chômage. L'entreprise cotise, et c'est cette mutualisation des valeurs ajoutées à l'échelle nationale qui garantit la sûreté de la couverture santé ou de la vieillesse, quels que soient les aléas de l'entreprise ou de mon rapport au marché du travail. La cotisation nous libère déjà considérablement du marché du travail et elle socialise déjà 45% du salaire, il s'agit d'aller à 100%. 100% du salaire va relever d'une cotisation pour que l'on ait un salaire à vie entre 1500 et 6000 euros de 18 ans à notre mort. Tout dépend évidemment du salaire moyen, hein, bien sûr, mais il faut à peu près 60% du PIB. Ça veut donc dire que 60% de chaque valeur ajoutée d'entreprise est cotisée à des caisses de salaire qui à la fois garantissent le salaire et en même temps font que l'on ne tire aucune ressource de son entreprise. Rien, pas de prime, rien de tout cela. Évidemment, pas de profit, puisque la propriété lucrative est interdite. Pas de dividendes, il y a des scopes qui ont des dividendes, évidemment pas de dividendes. Ça, c'est le second déplacement. Passer de l'idée de nationalisation et de droits nouveaux pour les salariés d'entreprise, qui pour moi ne sont pas du tout un premier pas, qui sont un pas de côté, qui nous empêchent de mener la bagarre sur le cœur à partir de l'acquis de la socialisation de 45% du salaire, propriété d'usage de tous les lieux de travail. Si les fonctionnaires étaient les propriétaires d'usage de travail, ça se saurait, d'accord. Et évidemment, si les salariés du privé l'étaient, ça se saurait aussi. Et vous voyez quelle énergie et quel déploiement du travail nous allons faire. Si on entend par travail, justement, la production de valeur économique. L'activité étant la production de valeur d'usage. Troisième déplacement, du crédit public. La BCE finançant directement les dépenses publiques, le pôle public bancaire, etc. Passer du la revendication d'un crédit public à la fin du crédit par la cotisation économique. Revendiquer un crédit public, c'est comme revendiquer une nationalisation. C'est légitimer le crédit privé, bien sûr. Tout comme les nationalisations légitiment la propriété lucrative hors de leur champ. Tout crédit, je parle du crédit qui finance l'investissement, je ne parle pas du crédit au particulier, qui est absolument nécessaire parce que nous ne pouvons pas, par le flux courant de nos ressources mensuelles, assumer de grosses achats comme un logement, une voiture, des choses comme ça. Donc le crédit au particulier restera nécessaire, en tout cas tant que les voitures et le logement à acheter seront nécessaires. Cette chose peut évoluer, bien sûr, dès lors que nous maîtriserons les valeurs d'usage, parce que nous maîtriserons, par la copropriété lucrative, la valeur économique. La copropriété d'usage, pardon, la valeur économique. Actuellement, comment est financé l'investissement? De deux façons. Il est financé à partir d'une partie de ce qui est produit, qui ne va pas à la consommation finale, qui est utilisé pour des consommations intermédiaires, des biens de production, et à partir d'une création monétaire qui anticipe la valeur nouvelle qui va être créée par l'investissement, ainsi financée par création monétaire. Ces deux formes de financement de l'investissement reposent sur le crédit lucratif. Crédit lucratif, d'une part, des prêteurs qui, après avoir ponctionné par la propriété lucrative 35% de ce que nous produisons, je rappelle que nous produisons 2000 milliards par an et que le profit représente 700 milliards, 35 milliards de ce que nous produisons va à des propriétaires lucratifs. Après donc nous en avoir ponctionné 700, ils en investissent aux conditions qu'ils veulent, là où ils veulent, s'ils le veulent, etc., avec des chantages permanents. 400, 300 milliards qui sont un coût énorme de capital, qui pèsent sur toute la production, qui sont non investis, qui vont dans les dépenses somptuaires de ces personnages. La deuxième façon de financer l'investissement, c'est la création monétaire par crédit bancaire. Encore, c'est par crédit que l'on finance la création monétaire. Pour être reconnu comme en capacité de produire de la richesse, il faut d'abord s'endetter. C'est incroyable. C'est un dispositif totalement pernicieux, dont on voit bien aujourd'hui le côté, l'aporie économique même qu'il représente. Il s'agit donc de combattre tout crédit, non pas de légitimer le crédit privé par un crédit public, non pas de légitimer la création monétaire privée par une création publique par la Banque centrale. Contester la légitimité de tout crédit qui nous endette, soit sur la base de ce que nous avons produit et qui nous a été piqué, soit sur la base d'une création monétaire par crédit bancaire. Nous pouvons, en revanche, consacrer non pas les malheureux 20% que les propriétaires lucratifs nous concèdent sous forme d'investissement, nous n'en maîtrisons rien, bien sûr, mais nous pouvons consacrer 30% du PIB à l'investissement. Nous pouvons consacrer non pas 400, mais 600 milliards. Sans passer du tout par le crédit, d'une part par l'autofinancement, les entreprises copropriétés d'usage, et donc les salariés d'entreprise en question, conservent 15% de la valeur ajoutée et l'affectent à l'investissement, et puis les 15% vont à une cotisation économique qui va à des caisses d'investissement, et ces caisses d'investissement subventionnent l'investissement. Il n'y a aucune raison qu'elle prête. Il n'y a de prêt que parce qu'il y a eu ponction préalable. Là, à partir du moment où c'est nous qui affectons, ponction privée, où c'est nous qui affectons le PIB à l'investissement, il n'y a aucune raison qu'on se rembourse. Donc, suppression du taux d'intérêt, évidemment, et du remboursement. Vous voyez comment nous allons complètement, encore, libérer le travail. Concrètement, dans l'immédiat, et ça devrait être court puisque j'arrive à la fin de mon intervention, mais peut-être que le débat permettra de faire. Vous voyez, par exemple, prenons la question des retraites. Si nous voulons que le salaire à vie des retraités devienne le cas de tous, commençons d'abord par revendiquer que la retraite doit être à 55 ans. Renouons avec la revendication ancienne, qui a été abandonné sans débat. On chercherait en vain un congrès de la CGT qui ait débattu de la question. Là, le passage à 55 ans est clair. Ça veut dire que la retraite, ce n'est pas un temps de loisir après une longue vie de travail. La retraite, c'est une seconde carrière libérée de l'emploi. où enfin on peut travailler sans employeur et sans actionnaire. Mettre sur un tract 55 ans, ça oblige à expliquer ça à celui à qui on s'adresse. Ça nous fait sortir entièrement des histoires de vie en bonne santé, des histoires de se battre sur 60, 61, etc. Ça nous fait sortir entièrement de tout ça. Ça nous oblige à faire de la politique. Deuxième élément, toujours sur les retraites, je ne parlerai que de ça finalement, parce qu'on n'aurait pas encore parlé de ça. Deuxième revendication de 100% du meilleur salaire. Pour le moment, on en est à 75% du salaire de référence. Interrogez un militant, il est incapable de vous dire si la revendication c'est 75% du brut ou du net. Il n'y a pas que les militants de base. Faites causer off un responsable national des retraites, il vous dira ben, on est sur le net, on n'est pas sur le brut. Ça n'est jamais avoué. 25 points de déculottage par rapport à la revendication classique. C'est pas pareil, 75% du brut ou du net. Et vous voyez ce que ça veut dire, 75% du salaire. Ça veut dire que cet euphémisme, qu'on a toujours pratiqué d'ailleurs, hein, qui ne concerne pas à dire 100%. Ah ben non, non, les retraités, bah, c'est des actifs, mais enfin, ils ne travaillent pas. On ne va quand même pas leur refiler la même chose que ceux qui travaillent. Hein. Ils ont droit à du revenu décent. Regardez cette thématique invraisemblable sur les retraites décentes. Voyez comment revendiquer 100% du meilleur salaire. On n'est pas dans la maison commune, là. Le meilleur salaire. Pas les 10 meilleures années. Les 10 meilleures années, c'est ce à quoi on était arrivé après une bagarre, mais dont l'ambition était d'arriver à l'alignement sur le statut de la fonction publique pour tous, c'est-à-dire le meilleur salaire. Comme référence, puisqu'on continue son salaire à vie, c'est évidemment le meilleur salaire qui doit être la base de calcul. Le retour aux 10 meilleures années est aberrant. Sans tenir compte des cotisations passées. Sans tenir compte des cotisations passées. Quelle que soit la carrière passée. Sans tenir compte ni des annuités, ni des points. Là, c'est pareil, on ne pourra pas mettre ça sur un tract sans s'obliger à faire de la politique avec ceux à qui on parle. Et pas faire du misérabilisme sur tout fout le camp, on nous pique notre pays, notre pouvoir d'achat. Si nous revendiquons que à 55 ans, on est 100% de son meilleur salaire, quelle que soit sa carrière antérieure, la durée de la carrière antérieure, ça dit clairement que ce qui s'est construit entre 1920 et 1980, ça n'est pas le droit à un différé de cotisations passées au nom de la solidarité intergénérationnelle. Et à très juste titre, Paul disait combien, en nous battant pour la solidarité intergénérationnelle, nous avons été battus, parce que c'est un mot d'ordre aberrant, qui nous dit, qui nous fait adhérer à la lecture capitaliste du réel. Nous n'avons pas conquis, au cours du XXe siècle, une autre définition du travail. Nous n'avons pas conquis, au cours du XXe siècle, une possibilité de reconnaître la production de valeur économique à des gens qui n'ont ni d'emploi, ni employeur. Or, si, c'est ce que nous avons conquis, justement. Nous avons conquis le salaire à vie des retraités, c'est-à-dire la reconnaissance qu'on produit de la valeur économique sans employeur et sans actionnaire. Et si c'est le travail actuel des retraités qui est la contrepartie des pensions des retraités, il n'y a aucune raison de compter leur travail passé dans leur pension. La pension reconnaît la qualification actuelle du retraité. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je travaille, figurez-vous.
Merci. Alors je voulais aussi préciser, parce que j'ai oublié de le faire tout à l'heure, que pour ce débat, on avait aussi eu l'accord du bureau confédéral de la CGT hein, pour participer au débat. Et pour des raisons d'agenda, c'est toujours un peu difficile à cette période de l'année, ils n'ont pas pu venir. Mais voilà, la CGT était d'accord pour débattre avec nous aujourd'hui, et je tenais à le préciser. Donc je vais donner la parole à la salle, donc essayer, hein, comme d'habitude, de faire des questions assez court pour que un maximum de camarades puissent poser des questions et qu'on ait le temps d'avoir une vraie réponse à tout ce que ces riches introductions ont pu initier comme problématique. Moi, je voulais juste dire quelques mots rapides, notamment pour vous faire état des différents travaux qu'on fait à la Commission économie du PG, notamment à partir de ce type de réflexion. Plusieurs d'entre vous ont parlé de dire comment on va progressivement vers cette rupture avec le capitalisme, cette rupture avec le marché du travail, comment aller vers une nouvelle définition de la valeur. Nous, on travaille notamment sur une proposition au PG qu'on appelle la socialisation progressive des entreprises et qui vise à en finir avec le privilège féodal des capitalistes, qui fait qu'aujourd'hui, eh bien, la totalité du bénéfice d'une entreprise est accaparée par les actionnaires, d'une part en ce qu'ils se versent immédiatement en dividendes, donc ce qu'il y a dans leur compte en banque, et d'autre part en ce qui reste dans l'entreprise en autofinancement, mais comme ils sont propriétaires de l'entreprise, eh bien, c'est eux qui ponctionnent la totalité du bénéfice qui a pourtant été créé par le travail. Et pour en finir avec ça, eh bien, nous travaillons sur la proposition selon laquelle eh bien, il y aurait une part de ce bénéfice, hein, mesurée selon la contribution du travail à la valeur ajoutée, dans l'entreprise, eh bien, qui serait propriété des travailleurs de l'entreprise, qui serait propriété d'un collectif de travail dans l'entreprise, donc ce serait l'ensemble des travailleurs eux-mêmes, et qui serait non lucratif, ça ne donnerait pas le droit à dividendes, ces actions ne donneraient pas le droit à dividendes, mais par contre, progressivement, si chaque année, eh bien, une partie des capitaux propres de l'entreprise qui ont été augmentés par l'accumulation du bénéfice eh bien, devient propriété de ce collectif de travail, eh bien, les salariés pourraient devenir propriétaires de l'entreprise. Voilà, c'est l'un des moyens qu'on peut avoir pour progressivement faire en sorte que les travailleurs s'approprient les moyens de production. Et je pense que la question de la propriété privée est fondamentale, comme ça a été dit. L'autre proposition qu'on fait, je vais vite, mais vous pouvez voir les différentes contributions de la Commission économique pour lire tout ça, c'est effectivement d'étendre le principe de la cotisation. Alors nous, pour le moment, on ne va pas jusqu'à la socialisation à 100% et le fait qu'il n'y ait plus qu'une seule cotisation et plus de salaire réel versé par les employeurs, mais on propose qu'il y ait une nouvelle cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui permettrait de financer une caisse de sécurité économique qui à la fois financerait la sécurité sociale professionnelle, financerait également un certain nombre d'investissements, permettrait d'aider les TPE et PME en période de difficultés économiques et donc effectivement l'extension du principe de la sécurité sociale à la sécurité des entreprises elles-mêmes. Et il y aura un barème à ces cotisations pour que les grandes multinationales cotisent beaucoup plus que les petites entreprises qui cotiseraient quasiment pas. Et comme ça nous permet d'étendre ce principe révolutionnaire de la cotisation. Donc pour le moment, on travaille là-dessus et on avance. Et puis, je voulais également ajouter qu'il faut quand même, je trouve, clarifier la différence entre le salaire universel et le revenu universel. Parce que le salaire universel, tel que le décrit Bernard, qui permet effectivement de rompre avec la vision capitaliste de la valeur, je pense que c'est un chemin qui est très positif. Par contre, le revenu universel qui serait vécu simplement comme un revenu d'appoint en plus du salaire réel versé aux travailleurs et qui continuerait à être versé quand les personnes ne travaillent pas, je pense que ce revenu universel conçu de cette manière-là peut entretenir en fait le système capitaliste et être simplement un cache-misère, et on pourrait avoir beaucoup de capitalistes qui seraient bien contents finalement que ce soit l'ensemble de la collectivité qui finance comme ça les chômeurs de cette manière, et je pense que ça pourrait faire une pression à la baisse sur les salaires. Donc moi je pense plutôt que dans cette logique là de revenu universel, il faut plutôt aller vers l'extension de la gratuité, vers la diminution du temps de travail, vers un droit de tirage gratuit sur les services publics, où finalement on aurait la même chose, c'est-à-dire que les gens pourraient continuer à vivre sans problème, il y aura un égal accès à ces choses-là pour l'ensemble de la population. Mais par contre, si on parle vraiment d'un revenu versé universel, et bien, il faut que ce soit sous forme de salaire par une extension de la cotisation, et non pas un revenu d'appoint au salaire déjà versé. Je ne sais pas si c'est très clair, mais voilà un petit peu l'état de nos réflexions. Je laisse la parole à Paul et puis à Bernard, si vous pouvez faire 10 minutes chacun, et comme ça on est dans le temps, les camarades pourront rejoindre le prochain atelier tranquillement.
La première chose qui me semble importante, c'est de dire que nous n'avons pas, me semble-t-il, de plan préconçu. Non seulement on n'en a pas, mais on n'en a pas à en avoir. Moi je ne crois plus à une totalisation, ni a priori, ni a posteriori. Ce qui nous conduit à réfléchir à la fois à la forme partie, la forme organisation que l'on souhaite avoir, ce qui nous conduit aussi à réfléchir, j'allais dire, à la primauté de l'acteur de la transformation sociale. Moi, je crois que ce sont les mouvements sociaux qui sont effectivement à la primauté de la transformation sociale. Ce qui veut dire donc que si on n'a pas un projet ficelé de A à Z, ben c'est pas gênant. Ça, c'est le premier élément de réponse. Je crois qu'ensuite, il y a deux grands phénomènes majeurs dont il faut tenir compte. Premier phénomène, on sait que le grand phénomène majeur du XXe siècle, ça a été le développement des classes moyennes. Le grand phénomène majeur de ce début du XXIe siècle, c'est ce qu'un certain nombre de sociologues appellent la démoyennisation. Il y a la fin des classes moyennes, l'avenir grec de l'Europe. Hein, cette génération des bac plus 5 à 1000 euros, s'ils ont la chance d'avoir un emploi. Donc il faut intégrer aussi cet élément dans notre réflexion. Il n'y a pas que ce phénomène majeur. Il n'y a pas que cette régression sociale. Il y a également la menace d'un effondrement environnemental. Et on sait que c'est de plus en plus proche. Et donc, il y a nécessité de repenser nos modes de vie. Et je suis certain qu'on serait d'ailleurs d'accord, en poussant la discussion avec Bernard, mais on ne pourra pas généraliser à 7 milliards d'humains ce que représente en termes de consommation 1500 à 6000 euros par mois. C'est-à-dire qu'il faut apprendre à penser le salaire, le revenu, peu importe le vocabulaire, le mode de vie différemment. Sinon, on est piégé. Alors, par quoi commencer? Par quoi commencer? Premier élément de réponse, j'aurais envie de dire, on ne changera pas les choses en culpabilisant les gens, ni en appelant la responsabilité. On ne pourra changer les choses qu'en suscitant le désir, qu'en donnant envie. Donc, notre projet doit tenir compte de cette question du désir. Et pour moi, il y a deux grands axes qui ne s'opposent pas. Et chacun est plus à l'aise avec le premier ou le second axe. Premier axe, c'est la défense et l'extension de la sphère de la gratuité. Ça, c'est un enjeu qui se traduit au quotidien. Et j'espère, en 2014, pour les élections municipales et territoriales. Hein, gratuité d'un certain nombre de services publics locaux, puis régionaux, nationaux, internationaux. Et puis, deuxième axe, c'est la défense et l'extension de ce que Bernard appelle la sphère du salaire à vie, qui existe déjà. Il parlait des retraites, mais je pense aussi à ce qu'avait été le mouvement des intermittents. Les intermittents disant, c'est vrai, on a un régime sacrément plus avantageux que les autres. Puisque globalement, ça maintient, ben, c'était pas tout à fait aussi juste, mais ça maintient notre salaire. Et en disant, nous, il faut que ça soit généralisé à l'ensemble de la société. Donc pour moi, c'est deux axes, hein, défense, l'extension de la sphère de la gratuité, défense et extension de la sphère du salaire à vie, c'est de là dont il faut partir. Je crois aussi qu'on aurait tout intérêt à... On a parlé de l'importance de prendre conscience du déjà-là. Hein, je crois qu'on aurait intérêt à mutualiser l'acquis. L'an dernier, on avait eu, dans le même cadre, hein, un grand débat sur les services publics. Et on s'était quitté en prenant une sorte d'engagement, en disant « ça serait bien si on créait un observatoire national de la gratuité, pour montrer que ça marche ». Alors des fois, il y a des échecs, hein, il y a des difficultés. Mais non, on n'a pas créé d'observatoire national de la gratuité. C'est-à-dire qu'on peut être sur Grenoble et ne pas savoir qu'à Montsartou, eh bien, on a instauré la gratuité des services funéraires. Ne pas savoir que face à la loi Grenelle 2, qui va imposer le puissage des poubelles et le paiement au poids des villes, on sait ce que ça développe. Ça développe les dépôts sauvages, ça développe l'incinération privée, et on sait par ailleurs que socialement c'est injuste. Puisque toutes les études montrent que les pauvres ont des quantités d'ordures 27% supérieures aux riches parce qu'ils ne font pas les mêmes courses. Ils n'achètent pas les mêmes produits. Et donc des villes, dans le nord de la France, ont développé la gratuité de la collecte. Donc ça marche, ça fonctionne, mais on ne mutualise pas, on ne fait pas connaître. Mais pourquoi? C'est pas parce qu'on est feignant. C'est parce qu'il y a des désaccords, y compris entre nous, y compris au sein du front de gauche. Si vous prenez sur la question de la gratuité des services publics, sans même parler d'un salaire social, d'un salaire à vie ou d'un revenu garanti, il y a des accords. Donc je crois qu'il faut effectivement aller plus loin dans ces domaines-là. Maintenant, pour coller un peu plus à certaines questions qui ont été posées, Christelle, tout d'abord, sur les tâches ingrates, mais la réponse a déjà largement été faite. Moi, mon voisinage depuis une dizaine d'années avec Emmaüs m'a obligé à remettre en cause, allez, j'ai utilisé une formule un peu choc, le racisme de classe que je pouvais avoir, en disant, allez, ramassez les ordures, mais qui c'est qui va faire ça? Eh bien, je peux vous assurer qu'effectivement, faire la plonge, ramasser les ordures, si, eh ben, si on rend effectivement la maîtrise aux gens qui occupent ces fonctions, ça ne devient pas forcément la tâche à fuir. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas réfléchir à la division du travail, qu'il ne faut pas réfléchir à des choses comme ça. Mais faisons attention, effectivement, à ne pas avoir ce regard un peu condescendant sur allez, les métiers manuels, en considérant que les seules tâches qualifiées seraient effectivement les tâches intérieures. Sur le retour des bandits sociaux, c'est-à-dire l'impression des billets la nuit dans notre banque, dans notre cave. Moi, je préfère soit les associations, soit les villes, parce que ça commence, qui battent leur propre monnaie locale, avec l'objectif de verser les aides sociales sur la base de monnaie locale valable seulement sur des produits à forte valeur ajoutée écologique et sociale. Ça me semble un instrument de transformation beaucoup plus important. Sur dotation individuelle d'autonomie, oui, j'avais dit qu'effectivement, c'est plutôt dans ce domaine-là que je cherche. Mais je ne voudrais sûrement pas opposer les chantiers. J'ai beaucoup travaillé avec le mouvement social aux Antilles, et vous vous rappelez peut-être de l'appel qui avait été lancé par un certain nombre de poètes pour la gratuité des produits de haute nécessité. Et bien, dans leur jargon, dans le cadre de ce mouvement social au Guadeloupe, en Martinique, nous, ce qu'on revendique, ça prenait cette forme-là. Et bien, ça me semble aller dans le bon sens. Donc, n'opposons pas, effectivement, les multiples initiatives. Travaillons à la convergence. Il va y avoir des difficultés, il y a des désaccords. Mais je crois que ce qui nous unit est beaucoup plus important que ce qui nous sépare. Et puis, toute dernière chose, je crois qu'il ne faudrait sûrement pas penser que ce débat sur le salaire à vie, sur un revenu social garanti, sur la gratuité, serait simplement une réponse à l'urgence sociale. Si c'est ça, on se plante. Il faut arriver à en faire un instrument de transformation de la société. Et je vous donne un exemple tout simple. Dans l'avant-dernier numéro de la revue Campagne solidaire, qui est la revue de la Confédération paysanne, on a consacré un dossier à l'aide alimentaire. Puisque vous savez que l'Europe vient de couper les budgets pour l'aide alimentaire. Entre nous, l'aide alimentaire... On n'aime pas trop, ça permet à des grandes firmes de se payer une moralité à bas coût, et puis on retrouve dans l'aide alimentaire tous les produits qu'on n'aime pas. Et on a essayé de déplacer le débat. Si au lieu de considérer que l'aide alimentaire c'est pour les pauvres et que finalement c'est pas important, on se disait l'aide alimentaire qui concerne quelques millions, je ne me rappelle plus le chiffre exact, en France. On en faisait comme la restauration sociale, c'est-à-dire scolaire, entreprise hospitalière, un levier véritable pour aller vers un vrai service public de l'alimentation. Et bien à ce moment-là, effectivement, on progresse. Je donne deux exemples, je terminerai là-dessus. On est d'accord que lorsqu'on revient en régime municipal, il faut le faire. Lorsqu'on instaure la gratuité de la restauration scolaire, il faut le faire. C'est pas pour faire la même chose que la Sodexo. C'est pour faire une alimentation faite sur place, servie à table, une alimentation relocalisée, resaisonnalisée, moins gourmande en eau, moins carnée. C'est pour transformer le produit. C'est évident. Eh bien, on s'est dit, imaginons, provocation, qu'on veut y rendre gratuit l'alimentation des Français. Deux repas par jour pour 60 millions de personnes. Combien ça coûterait? Eh bien, c'est 3,9 fois le budget de l'armée. Alors, c'est beaucoup, bien sûr, de l'armée. C'est beaucoup, bien sûr. Mais entre le tout gratuit et le rien de gratuit, il y a un sacré chemin possible. Et c'est ce chemin-là qu'il faut emprunter. Et il faut faire, effectivement... Eh bien, du service public, des biens communs, des outils permettant de commencer à transformer la société d'un point de vue anticapitaliste et anti-productiviste. Et je suis convaincu, je disais qu'il n'y a pas de plan préconçu, qu'il faut avoir en mémoire la fameuse formule du poète espagnol Antonio Machado, « Le chemin se fait en marchant ». Mettons-nous en mouvement. Et à ce moment-là, nous verrons aussi beaucoup de désaccords s'aplanir. Beaucoup de problèmes se régler par l'expérimentation. Je termine vraiment là-dessus. Pour moi, une des grandes causes de l'échec de la gauche, mais pas seulement en France, au XXe siècle, c'était le fait d'avoir attendu le fameux grand soir dont parlait Bernard. C'est-à-dire qu'on a considéré que tout ce qui détournait de la conquête du pouvoir central n'était pas bon. C'est pour ça qu'on a cassé le syndicalisme à base multiple, le mouvement coopératif, etc. Eh bien, on s'est trompé, il faut le reconnaître. Et il faut aujourd'hui développer une gauche maquisarde. Une gauche buissonnière, mais qui fasse école, c'est-à-dire qui donne envie. Mais il faut en même temps avoir un horizon le plus clair possible. Il faut avoir une vision juste de la société que l'on souhaite. Et de ce point de vue-là, j'irais parler de salaire à vie, parler de gratuité, parler d'écologie des pauvres contre l'écologie des riches. Oui, ça va dans le bon sens. Et les choses bougent.
Je vais donc satisfaire à l'injonction de Jérémy. Je passe cette la lumière. Si l'on regarde l'évolution de la valeur ajoutée qui est mesurée par le PIB, je ne discute pas la mesure du PIB, c'est une autre question encore, bien sûr. Mais ce que l'on observe, c'est que la croissance du PIB entre, mettons, le début du XXe le PIB double tous les 40 ans à peu près en valeur. Cette croissance, et prenons donc la fin du 20e, mettons, cette croissance, elle s'opère pas d'abord par la forme capitaliste de la valeur. La forme capitaliste de la valeur, elle s'exprime massivement au début du XXe siècle. Pratiquement tout le PIB, c'est du profit et des ressources, qui ne sont pas forcément du salaire, nées du marché du travail. Bien. Et ce partage classique signe une institution capitaliste, propriété lucrative, marché du travail. Ça, c'est la définition capitaliste de la valeur. On produit de la valeur économique si on se met sur un marché du travail comme demandeur d'emploi, sur un objectif, une partie de soi-même, dans une marchandise, la force de travail qu'on apprend aux gamins à constituer. Dès la sixième, on les emmène dans des salons d'orientation pour qu'ils se formatent bien aux attentes du marché du travail, toutes ces saloperies-là, d'accord. Cette institution-là est indissociable de celle du profit, de la propriété lucrative, avec également la création monétaire par crédit bancaire et la mesure de la valeur par le temps de travail. Ça, c'est les quatre institutions centrales du capitalisme que j'ai pas eu le temps d'en parler en totalité, que subvertit justement ce que nous avons conquis au XXe siècle. Pratiquement toute la valeur, sauf un tout petit quelque chose qui est l'impôt, mais qui est très peu de choses, l'impôt sur le revenu apparaît en 1914, etc., etc. Toute la valeur, c'est le profit. Et je vais simplifier parce qu'il n'y a pas... Et le salaire du marché du travail. Soyons clairs, marché du travail. Il n'y a pas de convention collective, il n'y a pas de fonction publique, ou très peu, très peu. Nous sommes dans l'ère du marché du travail. Ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est la partie centrale du PIB qui a le plus augmenté. C'est-à-dire, aujourd'hui, le PIB, c'est 700 milliards de profits, c'est 500 milliards de salaires directs du marché du travail,
les salaires directs du privé et les salaires des contractuels, des services publics, hein, les salaires directs, hein, marché du travail. Ça, c'est les institutions capitalistes. Ça, c'est la forme capitaliste de la valeur. Et puis, vous avez 800 milliards qui relèvent d'une toute autre logique. Pour l'essentiel, ces 40% du PIB, donc, sont la production des fonctionnaires, exprimée dans leur salaire. La contribution de l'administration au PIB, c'est l'addition des salaires des fonctionnaires. D'accord ? Donc, on a la production des fonctionnaires, donc fonction publique, et puis la sécurité sociale. La production des retraités, la production des soignants, la production des parents, la production des chômeurs. Nous avons là des groupes sociaux qui ne relèvent ni du marché du travail, ni du profit, qui créent de la valeur économique. C'est la partie la plus dynamique de la création de valeur économique dans nos sociétés, du fait de la lutte de classe qu'il a imposée, bien sûr. Si nous faisons maintenant une lecture erronée de cette croissance économique par des gens qui ne produisent ni marchandises capitalistes, ni mise en valeur de capital, et qui ne relèvent pas de la suggestion au marché du travail. Si nous en faisons une lecture erronée en disant « non, rien de nouveau sous le soleil, il n'y a rien de révolutionnaire au XXe siècle. Au XXe siècle, qu'est-ce qu'on a fait ? On a fait de la solidarité par ponction sur le profit et sur le marché, les salaires du marché du travail. Seule la forme capitaliste de la valeur est à la base du PIB, et ce que l'on a conquis, je ne vais pas le mettre en rouge parce que ce n'est pas révolutionnaire du tout, je vais le mettre pas en vert non plus, même si les verts ne sont pas très révolutionnaires, mais enfin, maintenant ils sont contentés. Je vais mettre du noir. On a conquis une ponction sur le capital et sur le travail pour financer des activités utiles mais non productives. Les fonctionnaires, c'est utile, mais ça ne produit pas de valeur. Les retraités, c'est utile, mais ça ne produit pas de valeur. Les soignants, c'est utile, mais ça ne produit pas de valeur. Les chômeurs, c'est utile, mais ça ne produit pas de valeur. Les parents, c'est utile, mais ça ne produit pas de valeur. Lorsque nous disons solidarité comme fondement de la sécurité sociale, nous disons ce discours-là. Nous sommes dans l'aliénation du discours de nos maîtres qui nous disent « Il n'y a de valeur que capitaliste. Tout ce que l'on peut conquérir, c'est une ponction sur cette valeur pour des activités qui sont utiles mais non productives. » Vous voyez que si nous sortons cette lecture aliénée pour dire que lorsque Croizat triple les prestations familiales, double le taux de cotisation sociale en un jour, en 46, c'est pas par une ponction. Ce triplement entraîne une hausse des prix, qui entraîne une création monétaire induite. Cette création monétaire anticipe la valeur nouvelle qui va être produite dans le cadre de la sécurité sociale. La cotisation ne ponctionne rien. La cotisation est une alternative au profit et au marché du travail. Dire que nous allons financer la sécu par une taxation du capital, c'est une régression intellectuelle absolue. La sécu n'est pas une taxation du capital. La sécu, c'est un substitut au capital. La sécu, c'est ce qui définit une autre convention de valeur. Et c'est cela qui est décisif si l'on veut ensuite faire des revendications immédiates. Comment voulez-vous revendiquer la retraite à 55 ans, à 100% du meilleur salaire, si vous ne revendiquez pas une hausse massive du taux de cotisation ?
non pas une taxation des profits financiers des entreprises, ce qui les légitime. Une hausse du taux de cotisation qui doit passer d'au moins 26 à 34%, au moins. Ce qui ne fait jamais que renouer avec une dynamique. Le taux de cotisation, il a fait ça, et depuis les années 80, il fait ça, voire il baisse, s'agissant de tout le salaire au SMIC, d'accord ? Il s'agit de retrouver cette dynamique, il s'agit encore une fois d'activer les conquêtes de la classe ouvrière, d'en finir avec la nostalgie, de faire pareil. Lorsque nous aurons convaincu que lorsque nous augmentons le taux de cotisation, nous ne ponctionnons sur rien, nous anticipons une création de valeur libérée de l'emploi et de l'actionnariat, alors on peut commencer revendiquer l'assurance maladie à 100% en disant « mais nous allons augmenter ». C'est ce qu'on a fait quand on a créé les CHU. La création des CHU ne s'est pas faite, ce qui est énorme. Créer les CHU dans les années 60, c'est une énorme mutation de l'appareil sanitaire. On ne l'a pas fait en allant sur les marchés financiers qui demandaient des financements. On a augmenté le taux de cotisation maladie, ce qui a entraîné, ça a induit une création monétaire qui anticipait la valeur produite par la santé, par l'appareil de santé, et attribue de la valeur à l'appareil de santé, qui est un fait de fonctionnaire, qui ne produit aucune valeur pour les actionnaires, etc., etc. Eh bien, continuons. Nous pouvons, vous voyez que si nous lisons la Sécu comme de la solidarité par ponction sur le capital, en permanence, nous avons nos adversaires, attendez, mais vous allez tuer la poule aux œufs d'or. D'accord ? Alors que si nous la lisons pour ce qu'elle est, une forme de valeur libérée de la convention capitaliste, alors nous pouvons être à l'offensive et dire on peut cotiser pour financer l'investissement. On peut cotiser pour financer les salaires directs et supprimer le marché du travail, supprimer la propriété lucrative.
Merci à tous pour votre attention et merci à nos deux invités pour ces exposés brillants.